C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming toujours. Tout de suite, c'est votre émission mensuelle de critique d'exposition, Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du comte de Lautréamont. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassily Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition, d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Cette année, avec Museum Side, on vous emmène parcourir la capitale pour dénicher pour vous les expositions qui valent le coup ou celles qui, au contraire, sont un peu décevantes. Le principe, chaque mois, deux expositions à l'affiche dans de grands musées parisiens sur lesquelles nous débattons avec à chaque fois un invité spécialiste qui nous donne des clés de compréhension. Ce soir, c'est notre quatrième numéro. Bonne année! Et nous recevons Fanny Schulman, conservatrice au musée d'art et d'histoire du judaïsme et commissaire de l'exposition Arnold Schönberg, Peindre l'âme, présentée jusqu'au 29 janvier 2017. En deuxième partie, notre tour de table sera consacré à la rétrospective de Bernard Buffet, présentée en ce moment au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 26 février 2017. Bonne année les filles! J'ai dit bonne année un peu tôt.
Bonne année.
À mes côtés, donc comme chaque soir, vous avez entendu leur 12 fois, j'ai le plaisir d'avoir Agathe. Salut Agathe.
Salut Florence.
Alors, tu nous parles de quel musée ce mois-ci dans ta chronique et pourquoi pas les collections permanentes?
De la monumentale collection de la Cité de l'Architecture.
Donc, une belle chronique pour commencer l'année. Marion, tu es là aussi et tu as eu un véritable coup de foudre pour Bernard Buffet. Bonsoir.
Oui, et j'ai notamment adoré les séries très étranges du Cirque et des Oiseaux.
Ah, on en reparlera donc en deuxième partie. Charlotte, tu restes dans le thème de l'émission avec Schönberg puisque tu as choisi le catalogue de l'exposition d'un compositeur aussi pour ta chronique Les lignes de l'art.
Oui, tout à fait, vous en saurez plus tout à l'heure.
Mais tout de suite, on parle de photos avec Marie-Hélène.
Je comprends pas ce que je vois.
Oui, alors aujourd'hui, je vous emmène dans une galerie de portraits photographiés par André Serrano. Ils sont exposés jusqu'au 29 janvier à la Maison européenne de la photographie. Alors là-bas, André Serrano nous donne à voir et à contempler ceux que l'on ne considère pas assez, ceux qui sont bannis, les sans-abri. Pourtant, impossible de croiser leur regard qui fuit l'objectif. Le format des photos impose pourtant leur présence et nous confronte à leur quotidien. Vêtements dépareillés, en mauvais état, visage marqué par la fatigue, le moindre trait devient esthétique sous l'objectif de Serrano. Et le côté artificiel de la photo, prise en atelier, tranche aussi avec la dure réalité de leur vie, ce qui donne un côté un peu décalé à l'image. Plus loin, l'artiste a exposé une sélection de pancartes en carton achetées aux sans-abri. Les messages sont tantôt tristes, humoristiques, désespérés ou joyeux. Certains sont de véritables œuvres d'art qui sont parfaitement décorées et dont les sans-abri ont mis beaucoup de soin à réaliser. Puis il y a deux magnifiques séries de portraits réalisés à New York et à Bruxelles. Là, on peut voir la fragilité des corps et l'expression des visages qui est à la fois touchante et plus brutale. Cette fois, le portrait est beaucoup plus frontal aussi. Les sans-abri sont photographiés dans la rue, ce qui accentue un peu plus le sentiment de malaise face à la misère. Ensuite, on passe complètement dans une autre salle et avec un autre décor. Cette fois, on retrouve l'artificialité des photos d'atelier avec des fonds lisses et colorés et une esthétique plus figée. La série America, qui fait partie de cette salle, a été inspirée de la tragédie du 11 septembre et dresse une mosaïque de l'Amérique profonde, un peu comme une version contemporaine finalement du travail documentaire de Walker Evans qui avait réalisé une série de photos pour la Farm Security Administration dans les années 30. Donc on passe à des personnages complètement différents, d'une mini-miss à un junkie, d'un soldat à un acteur, des membres du Ku Klux Klan à Donald Trump par exemple. Et donc, avec ses portraits monumentaux, Serrano immortalise des fragments de vie et les sublime à travers son objectif, qu'il s'agisse de dépeindre la diversité d'une société ou de célébrer la vie de ceux qui sont invisibles.
Je comprends pas ce que je vois.
On connaît Arnold Schoenberg principalement comme le révolutionnaire de la musique classique, telle qu'on la connaissait avant le milieu du XIXe siècle. Théoricien du dodécaphonisme, une composition désormais faite de 12 sons, le compositeur, professeur à Vienne puis à Berlin, choisit alors un chemin difficile pour lequel il sera fortement critiqué. Sa musique, considérée comme moins harmonieuse, est jugée sévèrement. Mais il faut se rappeler que le génie de la musique est né à Vienne le 13 septembre 1874 et il évolue dans un univers artistique en pleine effervescence. La sécession viennoise, avec des artistes comme Klimt, Schiele ou Kokoschka, bat son plein et prône un art total. On est dès lors moins étonné d'apprendre que Schoenberg peignait, à côté de ses créations musicales, dans un esprit de Gesamtkunstwerk, art total donc. Il exposera aux côtés du mouvement der Blaureiter, dont ses principaux représentants sont Kandinsky, bien sûr, mais également Franz Marc et Auguste Macke. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme propose dans son exposition « Arnold Schoenberg, peindre l'âme », présentée jusqu'au 29 janvier 2017, de découvrir les saisissants autoportraits de Schoenberg à travers le prisme de son œuvre musicale, puisque le parcours est rythmé par des points d'écoute. Le propos est très bien conçu et fait sens grâce aux différentes pièces musicales de Schoenberg. Et ce soir, nous recevons Fanny Schulman, conservatrice au musée et commissaire de cette exposition très intéressante. Bonsoir Fanny Schulman.
Bonsoir.
Je n'ai jamais vu des visages, mais seulement des regards, puisque je regarde les êtres dans les yeux. C'est pourquoi je peux reproduire le regard d'un homme. Alors qu'un peintre saisit d'un seul coup d'œil l'homme dans son entier, moi je ne peux saisir que son âme. C'est Arnold Schoenberg qui prononce cette phrase en 1938, et je suppose que c'est de là que vient le titre de votre exposition « Peindre l'âme », puisqu'elle est mise en exergue au tout début de l'exposition. Alors, que représente l'âme pour Schoenberg ?
Alors, c'est une très vaste question, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette citation est bien postérieure à la période où Schoenberg a pratiqué la peinture de façon très, très régulière. Il peint principalement entre 1907, 1908 et 1911-12. Et cette citation, comme vous l'avez dit, est bien postérieure. Donc c'est vrai que ce qui nous intéressait, nous, dans cette citation, c'était ce regard rétrospectif sur sa pratique de peintre, mais effectivement aussi la façon dont il considère cette activité. Quand il dit qu'il ne peut saisir que l'âme des personnes qu'il regarde, cela peut ouvrir évidemment vers des questionnements picturaux, mais aussi toute forme d'expression. Et je pense que ce qui intéressait Schoenberg dans la peinture, c'est à peu près la même chose qui l'intéressait dans la musique, c'est-à-dire une expression la plus directe possible d'un sentiment qui ne trouve pas d'autres modalités d'expression que celle qu'il choisit. Et précisément, une des raisons pour lesquelles il se met à peindre pendant ces années charnières, c'est sans doute parce qu'il n'arrivait pas à exprimer en musique tout ce qu'il souhaitait exprimer et qu'il se tourne vers le médium pictural à ce moment-là.
Agathe,
est-ce que vous pourriez nous expliquer justement l'attitude de Schoenberg vis-à-vis de sa production artistique, sachant que sa fille dit qu'elle a vu que quelques tableaux de son vivant, enfin du vivant de son père accrochés au mur, et que vous-même dans votre essai « Une image va avoir un nom », vous dites qu'il a pratiqué fugacement au final c'est la peinture et le dessin. Donc selon vous, comment...
Je pense que c'est... Il y a une vraie ambiguïté dans la façon dont Schoenberg va considérer cette pratique au sein de sa carrière. Il y a d'une part, effectivement, je pense chez lui, au moment où il commence à peindre, ce désir de se lancer dans une nouvelle pratique, puisque comme vous le soulignez dans votre introduction, il voit ses amis assez proches autour de lui, comme Oscar Kokoschka par exemple, qui est peintre mais qui est aussi écrivain, qui passe assez facilement d'un médium à l'autre. Il est initié par des amis peintres à la technique picturale, comme Richard Gerstel, et c'est vrai qu'il y a assez peu de traces sur la façon dont Schoenberg, au moment où il peint, considère cette pratique, mais on oscille entre différentes stratégies. C'est-à-dire qu'il y a, il y a notamment une lettre qui est assez connue, assez souvent citée, où il écrit à l'un de ses collaborateurs qu'il s'est mis à peindre, que pour lui c'est une manière de combler son manque de revenus, hein, parce que Schoenberg, à cette époque-là, vit assez pauvrement. Donc, il y a aussi un débouché peut-être financier qui n'a finalement pas marché, parce que Schoenberg, dans le peu d'expos qu'il a fait, a très peu vendu, ou seulement à ses amis. Et par ailleurs, il y a petit à petit, au fur et à mesure de sa correspondance, un changement de point de vue sur la façon dont il considère cette pratique. C'est-à-dire que au moment où Kandinsky le contacte, il lui souligne qu'il est peintre, qu'il peint, qu'il a cette activité. Et petit à petit, et notamment lorsque Kandinsky lui propose de participer à des expositions après la première, celle du Blue Reiter de 1911, il refuse en disant qu'il est avant tout un amateur. Pourtant, des citations ou des traces de correspondance ultérieures vont le voir aussi revenir à la peinture et vont le voir revendiquer aussi cette pratique-là. Donc on sent qu'il y a une espèce d'oscillation permanente en fait chez Schoenberg entre une revendication d'être effectivement cet artiste total qui parvient à s'exprimer par des biais extrêmement différents et cette idée que finalement dans le fond sa peinture est peut-être aussi une pratique très 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 intime, peut-être trop intime pour être exposée et revendiquée comme une pratique presque professionnelle. Donc je pense que Schoenberg n'a jamais été complètement clair, mais c'est aussi ce qui rend le statut de cet ensemble de peintures particulièrement fascinant.
Est-ce qu'on a l'impression qu'il se pose la question de la future postérité au final de ses œuvres ? Dans les années 50, dans une des lettres, il dit que franchement, je n'aime plus l'idée d'exposer mes tableaux.
Oui, mais c'est vrai qu'on voit plusieurs traces de propositions en fait que lui font aussi bien des professionnels de musée en Europe et aux États-Unis dans les années 30 et 40 qui se soldent par des refus de la part de Schoenberg qui est effectivement, comme le dit Nouria, sa fille, à l'époque, en tout cas de son déménagement aux États-Unis, remisait ses tableaux sans doute au garage. Il y en a deux ou trois qui sont exposés dans sa maison, mais sinon, c'est tout ce qu'il reste de cette activité. Donc, effectivement, elle est à la fois derrière lui, peut-être qu'il ne peut plus s'y identifier, et pourtant, de temps à autre, on le sent revenir à ce travail-là.
Et du coup, l'exposition est vraiment rythmée. Vous avez voulu la rythmer par les compositions musicales de Schoenberg parce que tout découle finalement. Enfin, c'est sa pratique, comme vous venez de le dire, sa pratique picturale est mêlée à sa pratique de composition musicale. Mais du coup, j'ai voulu aussi rythmer notre petite interview avec quelques extraits qui sont présentés dans l'exposition, quelques extraits musicaux, et qui, moi, m'ont vraiment bercé. J'ai eu envie de les écouter un à un, et j'y suis d'ailleurs retournée pour les réécouter. Donc, voilà le premier. Écouter un extrait de Gurlieder pour soliste, chœur et orchestre. Donc c'est le prélude avec seulement l'orchestre ici, donc composé entre 1900 et 1911 par Schoenberg. Et cette pièce est jouée au début de l'exposition, après la première salle qui retrace donc cette époque viennoise avec les magnifiques tableaux de Richard Gerschel dont vous venez de parler avant. Et donc cette pièce est marquante parce qu'elle est encore considérée comme harmonieuse avant ses premières œuvres de décaphonique, on reviendra dessus. Du coup, est-ce qu'on peut revenir sur comment vous avez conçu la musique dans cette exposition et le parcours ?
Alors oui, pour nous c'était vraiment très important, même si l'exposition se focalise sur la pratique de peintre de Schoenberg, de la lier en permanence avec son parcours musical. Il nous semblait absolument absurde, en fait, de scinder complètement ces deux pratiques. Il fallait au contraire montrer qu'elles se mêlaient et s'alimentaient l'une l'autre. On aurait aimé pouvoir rendre la musique beaucoup plus présente en son direct dans l'exposition. Ce n'est pas possible en raison de la façon dont ils sont faits. Donc, en fait, on a, au fur et à mesure que l'exposition se déploie, il y a un certain nombre de bandes d'écoute qui permettent d'écouter la musique, parfois de la voir aussi parce qu'on a des extraits d'opéra, etc., qui sont visibles au fur et à mesure de l'exposition. Et l'idée, c'était à chaque fois de pouvoir se focaliser sur les pièces musicales de Schoenberg qui pouvaient faire le plus facilement écho aux thématiques qui sont évoquées dans chaque section de l'exposition.
Moi, je voulais juste revenir un peu sur Richard
Gerstel,
dont vous montrez des tableaux qui sont extrêmement étonnants,
incroyable,
très audacieux, notamment son autoportrait. On a l'impression que la peinture cloque vraiment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui?
Alors, c'est un peintre qui est malheureusement très peu connu en France, et d'ailleurs très peu connu tout court. Hein. C'est sans doute dû aussi à sa mort très précoce. En fait, c'est quelqu'un qui a reçu une formation académique, enfin en tout cas qui commence ses études artistiques à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, qui a un esprit assez rebelle, qui va jamais terminer ses études, qui est évidemment au début de sa carrière très influencé par la génération qu'il précède, c'est-à-dire Klimt. On le voit dans ses premiers tableaux. Il va fréquenter un certain nombre de musiciens très vite, parce qu'il est très attiré par la musique. Il rencontre à ce moment-là aussi bien Mahler qu'Elbenberg, que Schoenberg, avec lequel il se lie particulièrement. Il va s'installer dans l'immeuble en fait où vit Schoenberg. Donc on peut penser que c'est vraiment Gerstel qui va l'initier à un certain nombre de pratiques picturales, enfin techniques. C'est quelqu'un qui est vraiment très représentatif de l'esprit viennois de cette époque, extrêmement introspectif. Vous parliez de l'autoportrait. En fait, il a produit un nombre très impressionnant d'autoportraits. On peut penser aussi que la façon dont Schoenberg, par la suite, a repris cette façon de se représenter vient aussi de là. Mais Gerstel va se représenter souvent dans des mises en scène, parfois assez inquiétantes et macabres, et qui font que c'est un peintre extrêmement marquant.
Et il a été également l'amant de la première femme de Schoenberg.
Oui. C'est une histoire qui est effectivement assez tragique et aussi mystérieuse parce que voilà, on a du mal aussi à démêler la façon dont cet épisode dramatique a pu avoir une influence réelle ou pas sur la peinture de Schoenberg. Mais Gerstel et la femme de Schoenberg, Mathilde, ont eu une relation passionnelle à un moment qui a finalement poussé Gerstel au suicide lorsque Mathilde Schoenberg a quitté Gerstel pour retourner vers Schoenberg. Et donc Gerstel s'est suicidé à l'âge de 24 ans en ayant auparavant détruit un certain nombre de ses productions picturales, ce qui explique en fait qu'il reste très peu de tableaux de lui aujourd'hui. Mais qui montre vraiment un esprit extrêmement indépendant et un style assez incroyable. Ouais. Oui.
Alors on va écouter notre deuxième extrait musical.
Thank you.
Alors cette pièce, c'était donc trois pièces pour piano opus 11, composées en 1911, et elle me permet d'aborder la relation entre Schoenberg et Vassili Kandinsky, puisque c'est cette fameuse composition musicale qui a inspiré à Vassili Kandinsky son premier tableau, Impression 3 Concert, qui est une de ses œuvres majeures à partir de laquelle il va désormais transcrire la musique en peinture. Schoenberg a créé en quelque sorte le Kandinsky que l'on connaît, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, mais c'est assez essentiel cette relation qu'ils ont entretenue. Et en plus, il y a deux magnifiques tableaux de Kandinsky qui sont assez époustouflants dans la deuxième salle. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur la relation qu'ils entretenaient entre eux et...
Oui, en fait, Vassili Kandinsky prend connaissance des œuvres de Schoenberg lors d'un concert. Lui-même habite à Munich à ce moment-là, hein, et c'est un concert qui a lieu à Munich le 2 janvier 1911, auquel il assiste avec un certain nombre d'amis artistes avec lesquels il va fonder quelques temps plus tard le Blau Reiter. Et Kandinsky est particulièrement bouleversé par ce qu'il entend, et notamment dans les trois pièces pour piano dont on vient d'écouter un extrait, il pressent que les recherches musicales que mène Schoenberg à ce moment-là, qui est vraiment dans sa période, enfin ce qu'on va appeler en histoire de la musique la période atonale, c'est-à-dire qu'il va se détacher de l'harmonie traditionnelle pour essayer de mettre en place une nouvelle forme d'harmonie, essayer d'une certaine manière de rééduquer l'oreille à entendre la musique complètement différemment. Et donc ce détachement d'une tonalité classique lui donne l'impression que c'est une recherche exactement parallèle à celle qu'il est en train de mener en peinture pour se détacher de la représentation traditionnelle. Kandinsky, à ce moment-là aussi, il a déjà fait quelques aquarelles abstraites. Il est en train de tâtonner vraiment pour comprendre et théoriser ce que lui-même est en train de créer en peinture. Et il voit en Schoenberg une espèce de miroir qui est d'autant plus important pour lui que pour Kandinsky, en fait, la musique, c'est l'art abstrait par excellence. Et du coup, il y a pour lui une espèce de noblesse dans le médium musical que la peinture n'a pas. Et du coup, il va écrire à Schoenberg pour lui dire qu'il a assisté à ce concert et qu'il a été bouleversé par ce qu'il a entendu. Il y a une correspondance qui va s'établir entre les deux hommes qui va durer jusqu'en 1936, qui est une correspondance extrêmement riche. On apprend beaucoup de choses sur l'évolution artistique de ces deux personnes. Au-delà de cette correspondance, ils vont collaborer sur différents plans et notamment à l'exposition de 1911, la première exposition du Blau Reiter à Munich, qui est vraiment l'une des expositions les plus importantes sur l'avant-garde artistique européenne qui a lieu avant la Première Guerre mondiale. On participe non seulement les artistes du Blau Reiter, mais aussi des futuristes italiens, et beaucoup d'artistes français, donc vraiment un espèce de creuset assez incroyable de l'art européen d'avant la Première Guerre mondiale. Et le fait que Schoenberg y expose quatre peintures est particulièrement intéressant pour nous, pour le lier à une histoire de l'art plus vaste.
Agathe.
Et c'est étonnant parce que vous avez choisi de montrer leurs photographies, leurs portraits côte à côte. Et moi, j'ai trouvé qu'aussi bien Kandinsky avait l'air de sortir du 19e siècle, c'est-à-dire étant debout, droit, extrêmement bien habillé, devant un meuble où on a des petits bibelots qui n'ont pas grand intérêt, autant Schoenberg, lui, a l'impression d'être dans une époque qui est le 20e siècle, contemporaine, assis avec un crayon dans la main, justement, qui ressemblerait beaucoup plus au portrait du peintre.
Oui, mais c'est d'ailleurs très étonnant parce que ce qu'il envoie à Kandinsky, c'est une photographie où il se représente en peintre. C'est des photographies donc, que Kandinsky et Schoenberg s'échangent puisque, évidemment, à cette époque-là, ils n'ont pas d'autre solution pour se reconnaître et se connaître. Donc, ils s'envoient par correspondance avant de se rencontrer dans la vraie vie un certain nombre de documents personnels. Et effectivement, c'est très intéressant de voir que Schoenberg choisit un statut plutôt de peintre que de musicien, en fait, pour se présenter à ce nouveau correspondant.
D'ailleurs, Kandinsky parle au sujet de la peinture de Schoenberg, de la peinture du seulement. Est-ce que c'est cette économie, plutôt de couleurs qui...
Alors, c'est une économie globale, en fait, qui va intéresser Kandinsky. C'est vrai que dans l'exposition, on montre trois des quatre peintures que Schoenberg expose au Blau Reiter à côté de ces deux grandes peintures de Kandinsky. Et les styles sont tellement dissemblables en fait qu'on peut presque se demander mais qu'est-ce qui a pu intéresser Kandinsky dans la peinture de Schoenberg ? Pourquoi cet artiste, en tant que musicien et en tant que peintre, a pu le passionner ? Et en fait, effectivement, cette expression de peinture du seulement que Kandinsky écrit lors d'un article qu'il consacre à la peinture de Schoenberg est particulièrement éclairant parce que je pense qu'effectivement, il y a une économie de moyens qui n'est pas seulement une économie dans l'usage de la couleur, hein, puisque dans le fond, la palette de Schoenberg est quand même assez étonnante pour l'époque. Il peut effectivement employer des tons assez sourds, assez sombres, mais des contrastes extrêmement vifs, avec du rose, du rouge, du bleu aussi, qui peut être assez violent, assez fort. Mais ce qu'on remarque, c'est que les peintures de Schoenberg sont toutes de très petites dimensions, avec dans le fond un récit assez ténu. En fait, il ne se passe pas grand chose en fait dans les peintures de Schoenberg comparé aux démonstrations que réalise Kandinsky de contrastes, de lignes, de formes, de couleurs qui s'affrontent, etc. De ce qui se joue dans les peintures de Schoenberg, c'est une expression beaucoup plus intime, très personnelle, qui oscille entre des visions de cauchemars et des représentations de soi extrêmement Oui, c'est une vraie peinture de l'intimité. Et je pense que Kandinsky était très fasciné par ce mode de représentation très direct, sans phare, sans filtre en fait, académique, puisque Schoenberg est totalement autodidacte, hein, en musique comme en peinture. C'est vraiment cette expression très directe qui va fasciner Kandinsky.
Alors on va écouter un dernier extrait. Alors c'est un court extrait, mais qui va nous permettre d'aborder aussi la question de la spiritualité dans sa peinture et dans sa vie. Donc c'est un extrait de Moïse et Aaron, un opéra composé par Schoenberg en 1932. Dans sa volonté d'art total, Schoenberg met en scène nombre de ses compositions. Moïse et Aaron est sûrement sa plus célèbre, et d'ailleurs on voit de nombreuses mises en scène qui sont projetées dans l'exposition. Et après s'être converti au protestantisme, il redevient juif et sa production devient plus spirituelle, donc comme ses autoportraits. Quelle est la relation donc de Schoenberg face à sa spiritualité qui est un peu qui varie quoi, qui
fluctue. Oui, effectivement, mais c'est un peu comme la façon dont il regarde sa peinture. En fait, il y a pas vraiment de permanence dans son rapport à la spiritualité. Ce qui est sûr, c'est que en 1898, il se convertit au protestantisme. Il est né dans une famille juive qui n'était pas particulièrement religieuse ou pratiquante. On peut imaginer qu'il se convertit principalement par envie de quitter peut-être ce milieu qui est très stigmatisant à Vienne à cette époque et de pouvoir s'intégrer et peut-être, qui sait, faire carrière dans le monde musical. Entre ce moment-là de conversion au protestantisme et 1933, la date où il revient à la religion juive, s'écoule un vrai moment de progression et de questionnement chez Schoenberg, qui se ressent aussi bien dans l'introspection qu'il accomplit à travers ses peintures que dans ce qu'il met en place dans la théorie et la pratique musicale. qui l'amène à se repositionner différemment sur le plan de la spiritualité. Effectivement, son passage, son expérience de la Première Guerre mondiale est pour lui un moment de traumatisme très fort. On comprend qu'après ce moment-là, où il est engagé volontaire, il va réintroduire un certain nombre de thématiques bibliques. L'opéra Moïse et Aaron, en fait, qui est la pièce musicale sur laquelle il a travaillé pendant le plus longtemps, en fait, il commence à y travailler dans les années vers la fin des années 1920, et il ne parviendra jamais à l'achever, même s'il a cet espoir-là jusqu'à sa mort. Et tout ce travail de Moïse Aaron s'accomplit sur fond de montée du nazisme, de stigmatisation de plus en plus insupportable des juifs en Allemagne et en Autriche. Schoenberg est à Berlin en fait au moment où Hitler accède au pouvoir. Et il quitte Berlin puisqu'il est très 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 rapidement en fait on lui fait comprendre qu'il va être démis de ses fonctions. Il arrive à Paris. Et il va accomplir à Paris cet acte de reconversion au judaïsme, qui est un document assez mouvant d'ailleurs, puisque signé entre autres comme témoin par Marc Chagall, qui est à la fois évidemment un acte aussi qui vient parachever cet intérêt hein, spirituel. On ne peut pas dire que Schoenberg était un homme qui ait une pratique religieuse en fait, mais c'était plutôt une manière de se positionné dans le monde de la pensée, mais c'est aussi cette reconversion est un acte politique de solidarité avec un peuple qu'il sent dramatiquement menacé au moment où il accomplit ce geste.
Agathe.
La dernière phrase de l'opéra biblique que vous retranscrivez dans l'exposition est homo, mot qui me manque. Et c'est marrant parce que cette phrase, moi, elle m'est revenue à l'esprit dans la dernière salle où on voit toute cette série d'autoportraits. Comme si justement, là, on avait une quête de l'image sans fin, le reflet de soi qui se répétait infiniment.
Alors effectivement, cet opéra de Moïse Aaron est particulièrement fascinant dans l'écriture du livret, enfin dans la musique évidemment, mais dans l'écriture du livret que Schoenberg réalise également. Et autant il arrive à terminer l'écriture du livret jusqu'au troisième acte, autant effectivement l'opéra reste inachevé dans sa musique et s'arrête au moment de ce deuxième acte où Moïse se désespère de pouvoir s'exprimer face aux Hébreux, au peuple des Hébreux, et lâche cette lamentation « Homo, mot qui me manque ». Et dans cette exclamation, il y a évidemment beaucoup de Schoenberg. De toute façon, il y a beaucoup de Schoenberg dans la façon dont il interprète le personnage de Moïse, ce prophète qui essaye à la fois... Moïse essaye de libérer les Hébreux de l'esclavage. Je pense que Schoenberg souhaite libérer la musique. Et il y a ce système de déco qui est effectivement sans fin, mais qu'on ressent, et je suis complètement d'accord avec vous, dans la façon dont il essaye de se sonder lui-même et de trouver le moyen adéquat de s'exprimer en tant qu'artiste. Et ces autoportraits, qui est en fait le seul genre en fait que Schoenberg va poursuivre au-delà de sa période picturale, puisqu'il va continuer à faire des autoportraits jusqu'en 1944, donc qui fonctionne en fait comme une espèce de journal intime. C'est une manière pour lui de marquer le temps et effectivement d'essayer de trouver, malgré l'impossibilité que chacun éprouve à s'exprimer, même Schoenberg, qui est un des plus grands artistes du XXe siècle, essaye et pose la question de trouver le moyen adéquat d'expression de soi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Fanny Schulman.
Merci à vous. Merci
Et donc l'exposition Arnold Schoenberg, Peindre l'âme, est à voir absolument au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 29 janvier 2017, que je ne me trompe pas d'année. Courez la voir et savourez ces instants de musique et de peinture. Et tout de suite, on écoute Idiothèque de Radiohead. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM et en streaming, et vous écoutez Museum Side, votre émission de critique d'exposition. C'est l'heure de ta chronique, Agathe, et pourquoi pas les collections permanentes de la Cité de l'Architecture.
Absolument. L'idée de présenter au public les plus beaux programmes décoratifs de sculpture qui ornent l'architecture des bâtiments du Moyen-Âge au XIXe siècle est née dès 1855, dans la tête de l'architecte restaurateur Viollet-le-Duc. Le but était de comparer les sculptures sous forme de moulage en plâtre à l'échelle 1, par époque et par style régionaux pour les étudier. D'où le premier nom que le musée adopte, le musée de sculpture comparée, qui se tenait dans l'ancien palais du Trocadéro, construit pour l'exposition universelle de 1878. Alors dans le grand hall consacré aux moulages, qui sont réalisés dès 1879, on y voit des portails entiers d'églises comme celle de Moissac, de la cathédrale de Chartres, des tympans d'Autun, de Vézelay ou des éléments d'hôtels particuliers. C'est donc un voyage dans le temps à travers la France que propose la Cité de l'Architecture, dont les collections sont loin de se limiter au seul moulage. Il serait effectivement dommage de ne pas pousser la visite à l'étage, aux fantastiques copies de peintures murales qui sont venues compléter le fond à partir des années 1930, grâce à l'initiative du directeur du musée des monuments français, selon son nom de l'époque. Et vous aurez l'occasion de faire une expérience immersive dans les coupoles, dans les absides, dans les chapelles peintes, reproduites à taille réelle et souvent en volume. Enfin, le clou de la visite sera probablement pour le Parisien la visite de la Cité radieuse de l'architecte Le Corbusier. Effectivement, dans la galerie d'architecture moderne, vous y trouverez une reconstitution meublée à l'échelle 1 d'un duplex de la célèbre unité d'habitation de Marseille. Une maquette monumentale, aussi proche que possible de l'original, qui a été réalisée dans les années 2000-2007 par des élèves de lycée technique et professionnel d'Île-de-France.
Tu irradies de soleil notre émission. Le sous-titre de l'exposition aurait pu être « Bernard Buffet, le mal-aimé ». Le musée d'art moderne de la ville de Paris revient, dans sa rétrospective sur Bernard Buffet donc, sur le peintre probablement le plus célèbre dans la période de l'entre-deux-guerres, mais également le moins compris par la suite. Le jeune Bernard Buffet, né en 1928 à Paris, quitte l'école en quatrième et réussit le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts à seulement 16 ans. Il peint alors dans sa chambre chez ses parents rue des Batignolles, avant d'aménager un petit atelier dans sa chambre de bonne 11 rue Mariotte. Son succès est fulgurant, surtout qu'il gagne le premier prix de la critique à 20 ans, organisé par la galerie Placide pour deux hommes dans une chambre, qui est d'ailleurs, tableau qui est d'ailleurs dans l'exposition. Quelques années plus tard, il rencontre les marchands Maurice Garnier et Emmanuel David. C'est grâce à eux qu'il obtient d'avoir une exposition annuelle, toujours à la même période, à la galerie Drouin-David. Le vernissage est d'ailleurs organisé à chaque fois le premier jeudi de février, et à la galerie Visconti pour ses dessins et ses aquarelles. Donc dès le départ, il est remarqué par les institutions et suivi par certains collectionneurs. C'est la période de l'entre-deux-guerres, rappelons-le, où il y a ce phénomène de jeunesse, on a besoin d'idoles très jeunes, il y a François Sagan, Yves Saint-Laurent. Mais à partir de sa série sur les oiseaux, tout bascule. Il est désormais très riche, il épouse en seconde noce après 8 ans de relation avec Pierre Berger, la pin-up de l'époque Annabelle Schwab. La roue a tourné, il est critiqué pour son appartenance à la Jet Set, on le voit partout dans Paris Match, sur les plateaux télé. Et pourtant, les honneurs continuent, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1974, un musée entier lui est consacré au Japon, créé par un de ses collectionneurs passionnés, mais il est boudé par les institutions. Les journalistes résument le dilemme ainsi, alors à votre avis, horriblement beau ou magnifiquement affreux? Alors qui veut commencer, horriblement beau ou magnifiquement affreux, les filles? Quel est votre avis? Charlotte.
Alors pour moi ce serait plutôt magnifiquement affreux, mais... Je vais m'appuyer sur des raisons stylistiques en quelque sorte. Oui. Donc, notamment dans ses œuvres de jeunesse, il a un style
très reconnaissable.
Exactement, très reconnaissable, avec des couleurs assez sombres, ocre, grise, et des ce qu'on appelle des griffures. En fait, on a l'impression que ce sont des coups de crayon. Enfin, il peint des visages très très émaciés, des figures très très fines, très longilignes. et des visages ridés. On en voit par exemple dans La Ravaudeuse de Filet, qui est une peinture donc, peinte en 1948, Une nuit sur toile. Et donc on a une femme qui est vraiment assez terne, avec des joues creusées, et qui est en train de tisser une immense toile qui recouvre toute la surface du tableau. Et en fait, on parle de peinture arachnéenne, car aussi bien la femme représentée que la toile, le tabouret en forme d'araignée, enfin tout a quelque chose de... je dis employer le terme crochu, c'était peut-être pas très approprié.
Bah, si, mais ouais. Je crois d'ailleurs qu'elle a les doigts crochus.
Elle a les doigts crochus comme les pinces du homard qui est allongé sur le plancher. Donc, ils sont autant d'éléments assez inquiétants et qui peuvent un peu rebuter le spectateur s'il ne va pas au-delà de ce qu'on voit au premier abord, finalement.
Mais pourtant, là, c'est justement ce qui plaisait au spectateur, c'était plutôt le début, donc sa première période, justement, des premières salagates.
Moi, je suis du même avis que Charlotte. Je trouve effectivement que c'est très intéressant de voir cette économie de couleurs qui était due au fait à la disponibilité aussi des couleurs en magasin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le fait qu'ils choisissent parmi les objets du quotidien de ses parents, des objets à peindre, des motifs artistiques. Donc, on a un inventaire des biens familiaux qui se fait à travers les différents tableaux qui sont dans ces deux premières salles et qui sont très intéressants. Après, je pense pas que ça rebute plus ou moins le public quand c'est triste ou un peu sombre. Au contraire, hein, ça c'est
en tout cas, ça n'a pas rebuté Marion, voilà. Qui adorait ce côté très sombre. Mais c'est vrai que son style, il faut quand même rappeler le contexte aussi, son style s'inscrit on est donc dans les années 50, on a une espèce de retour à zéro après la guerre, où on va plutôt vers l'abstraction qui arrivait des États-Unis, et lui est un mouvement, au contraire, à rebours, qui reste dans la figuration, et lui, il est vraiment dans la figuration, dans les réalismes d'après-guerre. Et on peut parler aussi d'une peinture d'une somptueuse pauvreté, parce qu'il y a une espèce d'économie de moyens, et Agathe.
On a même l'impression que sur certains tableaux, il y a un enlevé, en fait, de matière. Tellement on a l'impression de voir le canevas, en fait, la toile directement. Et comme Charlotte l'évoquait, les griffures qui viennent occuper tout l'espace de la toile aussi, qui donnent cette idée, effectivement, d'amaigrir véritablement l'œuvre.
Et en fait, il est aussi dans la figuration, mais on peut parler également peut-être de réalisme abstrait, parce que tu parlais, Agathe, tu vois, de ces natures mortes. Mais dans ces natures mortes, ce qui est très étonnant, ce qui fait partie aussi de son style, on n'en a pas encore parlé, c'est donc il abandonne complètement la perspective, et ces natures mortes sont, à la Matisse aussi, ce que faisait Matisse, sont complètement plaquées. Mais il y a quand même une espèce de grille géométrique qui forme l'espace, mais c'est plaqué, il n'y a aucune perspective.
Il n'y a plus de volume.
Ouais, il n'y a plus de volume, c'est ça.
Autre chose, moi, qui m'avait intéressée dans ces premières salles, c'est l'idée qu'il... l'utilisation de sa signature, qui redouble sur certaines œuvres, où on voit qu'il signe Bernard Buffet, et il re-signe après avec cette vraie signature qu'on retrouve après dans toutes ses œuvres. Et donc, on a une introduction aussi de l'écriture dès les années 40, à peu près, dans ses œuvres, qui est assez étonnante, et qui va aussi particulièrement bien avec cette idée de griffure et d'enlever de la toile.
Et il met toujours, ce qui est particulier aussi de sa signature, c'est qu'il met donc il y a sa signature en bas, comme tu le disais, et dans sa signature du haut, il met toujours aussi la date, il me semble. Vous n'avez pas remarqué 51, 52, 45, ça c'est vraiment particulier. Mais alors, moi ce qui me plaît aussi, c'est que il est très paradoxal. Hein. En 1958, par exemple, le critique Raymond Charmet, donc ça je cite du catalogue, le voit intensément cultiver le paradoxe et énonce les symptômes de ce qu'il compare avec humour à une maladie. Donc unité de style et incohérence, parce qu'on va voir que dans la deuxième partie de sa vie, on en parlera après, mais c'est plus du tout le même style. Et d'ailleurs, ça avait beaucoup choqué la série des oiseaux, où il y a une couleur complètement débridée, un énorme oiseau comme ça sur le premier plan, on en reparlera. Sincérité et artifice, parce que on l'a beaucoup critiqué parce qu'il se mettait en scène dans Paris Match avec Annabelle Schwab, mais en même temps il est sincère parce qu'on sait qu'il a une rigueur de pratique où il peignait tous les jours 4 à 5 heures dans son atelier, qui est très très forte. Audace et timidité, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup d'audace dans la façon dont il se met en scène, mais ce qui est très bien dans l'exposition, c'est qu'il y a du coup plein d'interviews, plein de documentaires sur sa vie. Et on voit qu'en fait, il est très timide. il arrive à peine à aligner deux phrases, donc c'est assez intéressant. Et réflexion et naïveté, parce que il y a quand même beaucoup d'aspects naïfs dans sa peinture, alors qu'elle est très réfléchie. Agathe, tu voulais dire quelque chose sur ça ?
Oui, parce que je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais le fait que ça soit un artiste médiatique permet justement d'incarner vraiment toute cette exposition. C'est-à-dire qu'on a les coupures de presse de Paris Match, les photographies de Bernard Buffet dans des dîners mondains, des choses
la
comme ça.
La remise de ses prix.
Voilà, exactement. Et ça donne un autre versant aussi à l'œuvre.
Et puis on le voit avec Giono, avec Cocteau, avec Pierre Berger. Enfin, il côtoie toute la fine fleur de ces époques-là. Et après, pour parler aussi de la tradition, il est très inspiré par Courbet, le sommet de Courbet, la leçon d'anatomie de Rembrandt, l'arrêt, le bœuf écorché, ça renvoie à Chardin, à Soutine, ses autoportraits à Durer ou à Velázquez. Il est quand même beaucoup dans une tradition, alors que son style est très cru dans la deuxième partie. Est-ce qu'on peut parler un peu plus maintenant de ces différentes séries? Parce que c'est quand même très étonnant qu'un artiste ait pu être soutenu à ce point par un de ses marchands, donc Maurice Garnier, avoir une exposition annuelle qui lui permet d'être millionnaire très rapidement, enfin peut-être pas millionnaire, mais enfin, riche très rapidement. Et du coup, il avait vraiment le choix de présenter une série différente chaque année. Et donc, on a la série du cirque pour lequel il est connu, le triptyque de la mort, les oiseaux, les folles. Je crois que toi, par exemple, Marion, tu avais beaucoup aimé la série des oiseaux qui marque une rupture dans son style.
Oui, une rupture. En même temps, on garde son trait très géométrique et incisif. Ce qui est ajouté, c'est les couleurs, peut-être, et des couleurs tout à fait, comment on peut dire, bigarrées, avec du rouge, du vert, du jaune, qui éclatent au regard du spectateur. Et les oiseaux, oui, mais en fait, dans chacune de ces séries, ce qui fait Buffet, c'est qu'il cherche à nous choquer par les sujets qu'il choisit.
Et ces oiseaux, femmes, les jambes écartées aussi.
Voilà, les oiseaux, il reprend le mythe de Léda et Jupiter. Non, c'est Léda.
Si, c'est Léda et Jupiter.
Et ouais, Zeus, enfin c'est pareil.
La Jupiter, Zeus.
Et en fait, sans y mettre le cygne, mais en mettant des oiseaux comme des chouettes
Des chouettes. En plus, il aimait beaucoup tout ce qui était les sciences naturelles, etc. Oui. Donc, on a toute une série aussi où on a un hibou, une chouette, un lézard.
Et il représente son épouse Annabelle. Si je ne me trompe pas.
Annabelle Schwab, qui devient donc Annabelle Buffet.
Donc, il fait en même temps une ode à sa femme, et il la représente on est presque devant un viol par l'oiseau. Enfin, c'est extrêmement choquant.
Marie-Hélène.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette série des oiseaux, c'est qu'on voit vraiment la rupture du style, enfin l'évolution du moins, parce que de 1956 à 1976, il y a un vrai tournant qui s'opère en fait dans sa peinture. Et comme disait Marion, ça passe d'abord par les couleurs, mais aussi par la texture. On passe à une pâte beaucoup plus lourde, avec beaucoup plus de couches. Quand on s'approche d'ailleurs, on peut vraiment les voir, on a presque envie d'y les toucher en fait.
D'ailleurs, à ce sujet, il y a une photographie, je ne sais pas si vous l'avez vue, de tous les étuis de peinture qui sont pressés.
Ah oui ?
Oui. Oui, où on voit qu'il y a un amas énorme. Pardon, je t'ai coupé.
Non, mais tu as bien fait. Et mais c'est exactement ça.
Tu as vu le changement technique aussi de jeu sur la matière.
Ouais. Tout à fait. Puis je trouve que du point de vue du spectateur, ça donne aussi une autre dimension du travail de Buffet. Parce qu'avant, avec les aplats, on n'avait pas forcément envie de se rapprocher. De loin, ça suffisait. Là, on a envie de regarder plus près. Moi, d'ailleurs, je me suis approchée et j'ai vu que tout de suite, le gardien était prêt à me bondir dessus pour me dire de ne pas toucher. Donc, ça donne vraiment envie et ça donne une autre perspective. Qui donne aussi beaucoup plus de puissance à la peinture, moi, je trouve.
D'accord. Quoi d'autre à dire? On a aussi la série du cirque, on a Charlotte.
Non, c'était juste pour revenir sur ce qu'on vient de dire sur l'évolution de son style. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une sorte d'introduction de la lumière. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais avec toutes ces couleurs qu'il utilise. Par exemple, je repense à la chouette qui est à la fois orange, jaune, or, bronze. Bah, on a vraiment une lumière qui apparaît dans ses peintures qui contraste vraiment avec l'aspect terne des premières œuvres.
Et puis il y a aussi ces tableaux historiques qui font penser à la bande dessinée.
Oui, il est vraiment dans une tradition là, ouais. Donc il reprend Dante, Jules Verne, et on est complètement dans la BD là. Ça, vous l'avez interprété comment? Ouais. C'est très étonnant. Bon, ça vous inspire pas grand-chose, Agathe?
Non, mais je crois que ça faisait aussi un peu partie de ces citations à l'histoire de l'art avec la barque de Dante de Delacroix et le sommeil de Courbet, qui est donc. Le sommet de Courbet est repris de façon un peu littérale, ce qui est d'ailleurs très étonnant dans le style de Bernard Buffet et qui vaut le détour. Et sinon, la barque de Dante est une espèce de réinterprétation avec l'enfer de Dante plus largement.
Puis il y a aussi
c'est des grands formats, la promenade est sympathique. Hein.
Bah, moi, j'ai quand même découvert un artiste assez étonnant. Étonnant, parce que le procès qu'on lui fait, c'est toujours d'avoir le même style. Et je trouve que oui, son style est pareil. Donc, c'est ce cerne noir et ses hachures. Mais on ne peut pas dire que ce soit redondant. Enfin, dans ses séries, il a beaucoup évolué. Il n'est pas du tout resté dans son petit confort, parce qu'il a fait des sujets très désagréables, comme les écorchés, toute sa série du cirque qui est affreuse. Enfin, je la trouve affreuse, mais il est très
c'est
étonnant.
Très mélancolique. Hein.
Ah oui, très
une
sombre.
Une tristesse assez...
Et puis il était très déprimé de ne pas être apprécié par la critique, alors qu'il avait eu un succès jeune si foudroyant. Bon, un dernier mot du coup, où on s'arrête là pour Buffet?
Peut-être le portrait des trois jeunes femmes qui sont sur la plage, qui s'appelle la plage Le Parasol, qui date de 1967, où elles sont allongées sur le sable, jambes écartées, exactement sous le soleil. Là, on a une petite touche d'ironie qui est assez sympa.
Ouais, je suis d'accord, c'est un très beau tableau. Donc, l'œuvre de Bernard Buffet, comme on l'a vu, est beaucoup plus complexe qu'on a bien voulu laisser croire, torturée, obsessionnelle. L'artiste a peint toute sa vie en continu, couchant sur la toile ses besoins, ses envies. Et comme on l'a vu aussi, il a souffert d'être aussi critiqué. On le ressent dans la dernière salle, je trouve, où il reprend le thème du cirque de manière cruelle, ainsi que le thème de la mort. Et atteint de la maladie de Parkinson, qui l'empêche désormais de peindre, il se suicide en 1999 en signant un sac de plastique noir provenant de sa galerie avec lequel il s'étouffe. Buffet a souffert toute sa vie d'être ainsi méprisé par les institutions, et cette exposition lui rend un bel hommage, je trouve, dûment mérité. La rétrospective de Bernard Buffet est à voir au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris jusqu'au 26 février 2017. Le Musée de Montmartre présente aussi Buffet intimement jusqu'au 6 mars 2017.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant ou...
Non, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi simple que ça. C'est
le monstre, vous voulez le voir dans le tableau?
Pas forcément, hein.
C'est l'heure de ta chronique, Charlotte, les lignes de l'art.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'exposition, du catalogue de l'exposition Ludwig van, le mythe Beethoven, donc une exposition à retrouver à la Philharmonie jusqu'au 29 janvier 2017. L'omniprésence d'un absent, c'est le titre qui ouvre le catalogue de l'exposition. Et pour cause, à travers une série de masques mortuaires, de sculptures, de peintures, aussi bien dans le musée que dans l'ouvrage, le visage de Ludwig van Beethoven est partout. On le représente avec un visage déformé, parfois avec un regard tourmenté, des rides qui expriment sa douleur et sa mélancolie, comme sur la sculpture Beethoven, la joue appuyée sur une main, qui date de 1888, d'Antoine Bourdelle. Obsédé par la figure du compositeur, auquel il va jusqu'à s'identifier physiquement, Bourdelle réalise pas moins de 80 sculptures de Beethoven au cours de sa carrière. Masque mortuaire, lithographie, carton à huile, buste en plâtre. De son côté, Joseph Danhauser, un jeune artiste autrichien, use de tous les supports pour immortaliser le musicien après sa mort en 1827. Alors, pourquoi cette fascination? Parce que Beethoven, c'est ce sourd qui entendait Dieu, pour reprendre les propos de Bourdelle? Le musicien comme prophète, l'un des chapitres du catalogue revient sur cet aspect de l'exposition. Ludwig est un génie, un saint, un héros. Dans son aquarelle de 1895, intitulée « La naissance de Beethoven », Friedrich Gesellschap fait de sa venue au monde une scène de nativité et lui donne ainsi une dimension sacrée. Écouter sa musique, une expérience mystique, pas de doute, à en croire Antoine Bourdelle, qui tremblait de tous ses membres à l'écoute du final de la 9e symphonie entonnée par les chœurs, ou pour Berlioz, à qui le chaos de la symphonie pastorale déclenchait des vertiges.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant.
Non, c'est pas aussi simple que ça.
Vous voulez le voir dans le tableau?
Pas forcément. Hein.
Alors, pour conclure l'émission, comme chaque mois, on fait un tour de table des coups de cœur assez rapide parce qu'on n'est pas très en avance. Agathe.
Alors, un coup de cœur rapide pour le bestiaire d'Honoré, Fables et chimères du monde animal, qui est une brève présentation des œuvres de Philippe Honoré. Honoré, vous le savez bien, de son nom d'artiste, qui se trouve à la mairie du 17e jusqu'au 20 janvier, où on retrouve ses savoureux rébus littéraires qu'il dessinait pour le magazine Lire.
Qui ensuite Marie-Hélène.
Moi, mon coup de cœur, ce serait l'exposition de Carl André au Musée d'Art Moderne. Donc, c'est une petite rétrospective très intéressante qui invite à reconsidérer en fait la sculpture comme comme un lieu à éprouver, à expérimenter. On peut marcher sur certaines œuvres, donc ça change complètement le rapport qu'on a, puisque d'habitude on est assez distant avec les œuvres. Là, on devient un peu nous-mêmes une sculpture en quelque sorte en marchant dessus. Et c'est tout des questionnements très intéressants sur la sculpture. D'ailleurs, Carl André disait « J'aime les œuvres avec lesquelles on peut coexister dans une pièce et qu'on peut ignorer si on le souhaite. » Et c'est tout à fait cette rétrospective. Si vous avez envie de passer à travers une œuvre particulière et complètement ignorer une autre, vous êtes complètement libre. Et je trouvais cette petite rétrospective très sympathique.
Marion.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est l'exposition de sur Fantala Tour au musée du Luxembourg jusqu'au 12 février. Une petite exposition à taille humaine qui nous permet vraiment de bien cerner la vie et l'œuvre de l'auteur rapidement, avec un travail quand même de commentaires assez remarquable sur de nombreuses œuvres et des rapprochements avec d'autres auteurs. Et enfin, je vous conseille d'y aller pour ne serait-ce que pour les autoportraits et les portraits de Fantin Latour qu'on ne connaît pas au crayon noir et à l'encre qui sont vraiment très intenses et très, très belles.
Charlotte ?
Alors donc moi pour terminer, mon coup de cœur c'est sur l'exposition La Pente de la Rêverie à la maison de Victor Hugo jusqu'au 23 avril 2017. Donc cette exposition est consacrée à un poème de Victor Hugo, donc La Pente de la Rêverie, et surtout à sa réception. Donc plusieurs regards, est-ce que ce poème nous parle encore aujourd'hui ? Donc le point de vue d'un groupe de lycéens, mais également d'artistes comme la peintre Anne Slasik ou le photographe Jean-Christophe Ballot. Également le regard de 8 poètes contemporains. Ce sera aussi un voyage à travers des cités antiques, donc par le rêve, les visions, donc des représentations imaginaires de Piranès, François de Nomé ou encore John Martin, donc à retrouver jusqu'au 23 avril.
Museum Side, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Fanny Schulman et à vous les filles, Agathe, Marie-Hélène, Charlotte et Marion, ainsi qu'à notre réalisateur Louis-Julien. Merci de nous avoir suivis sur le 93.9 FM et sur Internet. Si vous voulez retrouver toutes les infos sur les différentes expos dont nous avons parlé, n'hésitez pas à aller sur notre page Museum Site, sur le site de Radio Campus Paris, et suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. On vous retrouve le dimanche 5 février à 20h. Au programme l'exposition de Jean-Luc Vernat, au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, le MACVAL, l'artiste viendra lui-même nous expliquer les secrets de son travail. Et en deuxième partie, nous aborderons l'exposition sur Basile au musée d'Orsay. La soirée continue sur Radio Campus Paris. Restez avec nous.
On commence avec le mot du comte de Lautréamont. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Site, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité.